Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve David Gaillardon.
Nous commémorons cette année le 50e anniversaire de la mort de Boris Vian, né en 1920 et mort en 1959, à l'âge de 39 ans. Que reste-t-il aujourd'hui de cet inclassable, tour à tour parolier, romancier, inventeur, poète et musicien ? L'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », de « L'arrache-cœur », des « Paroles du déserteur », de « Je suis snob » ou encore de « Fais-moi mal Johnny », est passé comme un météore dans le Paris de l'après-guerre du côté de Saint-Germain-des-Prés. Cet autre monsieur 100 000 volts, qui souffrit sa vie durant de ne pas être reconnu en tant que romancier notamment, demeure aujourd'hui, sinon le maître à penser, du moins l'une des références favorites des adolescents, tout au moins des plus lettrés d'entre eux. Ses romans sont traduits aux États-Unis et jusqu'en Corée, ses pièces jouées à Berlin et à Budapest. Bref, pour pasticher une expression à la mode, il y a plus que jamais une actualité Boris Vian. Journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, Valère-Marie Marchand vient de publier aux éditions Écriture un Boris Vian ou le sourire créateur, dont l'approche est à la fois originale et savante. Une biographie écrite à la manière d'un long article de presse, d'où surgissent parfois des témoignages inattendus, comme on le verra. Valère-Marie Marchand, bonjour.
Bonjour.
Alors, après Noël Arnaud, après Françoise Renaudot et Philippe Baudio il y a quelques années, c'est vous qui tentez cette fois-ci de résumer la vie débordante de Boris Vian. L'exercice est à la fois singulier et paradoxal. La vie de votre sujet d'étude est courte, moins de 40 ans. Elle est dilatée à l'extrême, comme le montre le corpus de ses œuvres. J'ai compté 11 romans, 10 pièces de théâtre, au moins 4 recueils de poésie et un certain nombre de chansons. Tout ça à côté d'une vie publique fort riche, je pense notamment aux soirées de jazz dans les caves à la mode du Paris des années 1950. Quel parti pris a été le vôtre ? Quel fil conducteur avez-vous choisi d'adopter pour guider votre lecteur ?
Le parti pris que j'ai choisi, c'est la diagonale du fou. Boris Vian étant un joueur d'échecs invétéré, je me suis dit que cette diagonale était fort sympathique. Alors, diagonale, ça implique absence apparente, je dis bien apparente, de stratégie. Boris Vian était un stratège. Stratège malgré lui. C'est quelqu'un de très intelligent qui a une conscience de la vie immédiate dès son enfance à Ville-d'Avray, puisqu'à l'âge de 12 ans, on lui annonce pas, mais on le sous-entend, il est condamné à 10 ans d'espérance de vie à cause d'une malformation cardiaque et à une complication de la fièvre typhoïde. Donc j'ai adopté cette diagonale, l'oblique, que Boris Vian aimait beaucoup. Je dirais presque le labyrinthe pataphysicien. Vous voyez la spirale de nos amis pataphysiciens, très connus. Donc c'est quelque chose d'un petit peu subjectif, transversal, et en donnant surtout la parole, puisque Boris Vian, son principal talent, c'est de donner la parole aux autres. Donc j'ai été frappée aux portes des survivants de Saint-Germain-des-Prés, Ville-d'Avray.
Et ils sont nombreux, on va voir.
Ouais.
Alors, juste avant d'aller plus loin, vous venez d'évoquer quelque chose de très important qui est lié à l'enfance, même à la petite enfance de Boris Vian. Si vous voulez bien, Valère-Marie, faisons comme les forains lorsqu'ils arrivent sur la place et montons le décor. Présentez-nous un peu cette famille Vian à Ville-d'Avray.
La famille Vian, c'est une famille un petit peu proustienne. Nous sommes encore dans le 19e siècle, on est avant 1922. Boris Vian naît en 1920, le 10 mars 1920, et la mère, donc Yvonne, joue de l'harpe, le père est un rentier jusqu'en 1929, où bien évidemment il va le faire, les VRP, puisqu'il sera ruiné. Il a deux frères, donc Lélio et Alain Vian, et une sœur Ninon. Tout ça paraît paradisiaque. En fait, les parents de Boris Vian sont eux-mêmes des orphelins, donc prolongent quelque part leur enfance à Ville-d'Avray. La première fête, bien avant le tabou et la trompinette, c'est à Ville-d'Avray que ça se passe, dans un théâtre que j'ai visité, construit par les mains du père Vian, pour que les enfants restent dans une sorte de cage dorée qu'on retrouve dans l'arrache-cœur. Donc si vous voulez, la famille, c'est une famille privilégiée, qui n'a pas travaillé, et qui brusquement, il y a le tournant, un peu aussi si vous aimez le film Un dimanche à la campagne, c'est ça. C'est on prend le temps. On prend le temps de faire des pique-niques dehors. On prend le temps de jouer de la musique. On prend le temps de faire des bourrimés. Les bourrimés étant les héritiers des cadavres esquis des surréalistes. Vous écrivez un mot, le voisin complète, et ça fait un poème. Et tout Boris Vian est là.
Il y a un petit peu cet esprit du XVIIIe siècle aussi, avec les bourrimés, ce jeu sur la langue. On reviendra d'ailleurs là-dessus plus tard. Je ne sais plus si c'est vous qui inventez l'expression ou si elle est chez Boris Vian. On parle dans l'ouvrage de Trianon de banlieue à propos de ce petit hôtel particulier confortable qu'habite la famille à Ville-d'Avray.
Oui, alors ça c'est Alain Vian. Alain Vian, beaucoup de vos auditeurs en ont entendu parler. Alain Vian est le deuxième frère, le frère cadet de Boris Vian. Et il sera très connu pour avoir une boutique d'instruments anciens rue Grégoire de Tours. Donc Alain Vian va accueillir les rescapés du tabou. Nous sommes en 1954, là je fais un saut dans le temps. Et effectivement, l'expression Trianon de banlieue, c'est Alain Vian qui, sous la caméra de Jacques Baratier, parle de ce fameux « nous habitions un Trianon de banlieue ».
Alors un Trianon de banlieue où le fil de la vie de famille est heureuse, du moins jusqu'à un certain moment. Et alors vous parliez de l'importance de la musique, le frère lui-même plus tard se fera marchand d'instruments, la maman est harpiste et la maman, enfin Madame Vian, elle choisit d'appeler son fils Boris, ça n'est pas par hasard justement.
Oui, c'est pour Goudounov.
C'est Tchaliapine, la référence à la grande basse russe qui interprète magistralement le rôle de Boris Goudounov.
Donc si vous voulez, chaque enfant, Lélio, c'est pareil. Ninon, c'est pareil, sauf Alain qui n'a pas le prénom, un prénom en honneur à un compositeur. C'est une femme qui est mélomane. Son rêve, je dirais presque son fantasme, c'est de jouer de la musique. Et le père aussi. Le père est un bricoleur. Mon oncle Célestin, c'est le père. Il faut dire que Boris Vian et ses frères et sa sœur n'ont jamais appelé leur père du nom de papa. C'était l'oncle Paul. Et l'oncle Paul, un oncle, c'est très sympathique. Vous pouvez faire toutes autres choses. Voilà, il vous emmène en escapade. C'est le meilleur copain, c'est l'ami d'enfance. Et c'est vrai que ce que j'essaye d'analyser un petit peu, parce qu'il y a des photos que j'ai retrouvées. Vous savez, les photos vous en disent beaucoup sur l'attitude des gens. Et on voit la mère de Boris Vian à côté de sa harpe, un peu entre ombre et lumière. Et on la voit que c'est une femme qui est encore jeune, mais qui est déjà fatiguée par la maternité. Et on voit son rêve, le rêve de musique, que Boris va reprendre à sa façon, c'est-à-dire ces moments de partage qu'il avait dans ce fameux Trianon de banlieue, Trianon Versailles, la chose idéale, banlieue, ça veut dire ce que ça veut dire.
Banlieue chic, oui, c'est une bourgeoisie anticonformiste. On pense un petit peu à l'ambiance des films de Jacques Tati plus tard.
Oui, on pense à l'ambiance des films de Jacques Tati. Il a pour voisin la famille Rostand, Jean Rostand. Et puis, par la suite, Yehudi Menuhin.
Alors, on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'on revienne à cette enfance, parce que ce ruban qui se déroulait de manière assez harmonieuse, il va être coupé. Les parcs font leur travail et malheureusement, un drame survient qui brise à jamais l'harmonie familiale.
C'est la mort du père Vian, donc en 1944, un assassinat. Donc Boris, ayant cette malformation cardiaque, est le seul garçon de la famille à être là. Et on lui apprend au petit matin que son père vient d'être assassiné.
La maison même, il faut peut-être.
Voilà, dans la maison même. C'est-à-dire qu'ils ont migré entre-temps. Tout à l'heure, je vous parlais de Yehudi Menuhin. À cause de 1929, le père Vian est obligé de louer la villa des Fauvettes à la famille de Yehudi Menuhin, et il se trouve dans ce qu'on appelle la maison du gardien, qui est une annexe. Et en 1944, plutôt, dans des circonstances un peu troubles, il y avait beaucoup de cambriolages, beaucoup de règlements de compte à l'époque, des inconnus portant le brassard FFI rentrent par effraction dans la maison et assassinent Paul Vian. À deux pas, c'est là que j'ai découvert, parce que j'étais sur les lieux, parce que Paul Vian était un bricoleur chevronné et passionné, à deux pas, parce qu'il s'amusait à faire des doubles cloisons, des souterrains, enfin, c'est un roman, cette maison. Et à deux pas de l'issue de secours qui aurait pu le sauver. C'est-à-dire qu'il meurt assassiné sous les yeux de sa femme, de sa belle-sœur, de sa fille et de la fille de sa fille. Voilà. Et Boris, il a 24 ans, il va donc aller à la morgue, c'est quand même assez traumatisant. Il est père depuis 2 ans d'un petit garçon qui s'appelle Patrick. Si vous voulez, au moment où il devient père, il perd son propre père et il assume malgré lui le rôle de chef de famille en constatant la mort de son père, en allant dans ce fameux cimetière choisir l'emplacement la dernière demeure pour son père, qui est sans nom, sans anonyme, un espace complètement anonyme. C'est malheureusement en 1959, il ira le rejoindre à cet endroit-là. Mais si vous voulez, très tôt, donc, voilà, le compte à rebours est là. Donc c'est fini. Là, nous ne sommes plus dans la France de Proust, nous sommes dans la France de l'après-guerre, des règlements de compte, une France pas toute encore politique, mais qui va le devenir, où l'engagement, le nom d'engagement de son père, vous pouvez vous interroger sur les paroles du déserteur, le nom, apparemment nom d'engagement de son père, lui a coûté très cher à la famille. Parce que voilà, vous êtes tout de suite étiqueté et tout va très vite. Donc lui, il enregistre tout ça. Et comme le dit Michel Vian, ce sera un autre homme après 1944.
Alors, ce qui marque très vite, et je pense que c'est ce que vous avez voulu faire apparaître en filigrane dans votre ouvrage, on est surpris, on est vraiment marqué par cette ambiance de déglingue, de bricole, comme vous le dites vous-même, de bricolage, de surréalisme, d'exotisme dans cette famille. Il y a vraiment un goût du bizarre. C'est quelque chose d'étonnant, vraiment d'exotique et de surréalisme très tôt dans l'enfance de Boris Vian.
Bah, très tôt, vous savez, ses premières lectures, c'est la bibliothèque de Jean Rostand. Les fameuses limaces bleues, Michel Vian m'a dit que c'est Jean Rostand qui collectionnait, qui avait... Il faut dire que la bibliothèque de Jean Rostand, c'était quelque chose. Vous aviez des animaux empaillés, toutes sortes de phénomènes étranges et bizarres. Donc le goût de la normalité qu'on retrouve dans l'écume des jours, on le trouve déjà dans la bibliothèque de Jean Rostand, qui est la principale source de connaissances et d'inspiration pour le jeune Boris Vian.
Voilà, les Rostand habitent à côté, de la maison des Vian.
Alors, il faut vous dire, ce sont deux villas jumelles, donc la villa des Fauvettes et la villa jumelle de la maison des Rostand. Jean Rostand aménage un laboratoire. La famille Vian et la famille des Rostand étant très liées, puisque l'arrière-grand-père de Boris Vian était ferronnier d'art et avait conçu le portail d'entrée de la villa des Rostand à Cambeau-les-Bains. Donc, hasard de la vie, circonstances, Jean Rostand est le premier père spirituel de Boris Vian, puisque c'est ami de Queneau. Enfin, nous y reviendrons par la suite. Mais c'est quelqu'un qui est très important. Et Jean Rostand avait un frère qui était pas vraiment normal, qui avait des graves problèmes mentaux. Et Boris Vian va côtoyer à la fois le savant et l'envers du savant. Parce que Jean Rostand hébergeait ce frère qui avait de graves problèmes de schizophrénie. Et donc, vous voyez, il y a toujours...
On revient au goût du bizarre ou
voilà,
du différent.
Dr Jekyll et Mr Hyde, toujours. Ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, l'ombre et la lumière. Il y a un côté très Marcel Aimé chez Boris Vian. On passe les murailles, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le placard. Les enfants Vian passaient leur temps à franchir les frontières, c'est-à-dire ils passaient d'une clôture à une autre pour voir tout ce qui se passait à côté. Ils étaient enfermés, ce que décrit Boris Vian dans L'Arrache-cœur. L'Arrache-cœur est une forme d'autobiographie, puisque quand le père Vian construit ce fameux théâtre pour les surprises parties, c'est aussi pour que les enfants restent à domicile et n'aillent pas trop loin. Donc il y a une sorte de cage dorée de Ville d'Avray où les enfants sont à disposition et doivent rester dans le cadre. Et la hâte de Boris Vian, quand il est très jeune, lui qui est malade, qui doit garder la chambre, c'est d'enlever tous ses pulls et de dire non, 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 je ne veux pas être cette espèce de sorte de canard, enfin de personnage emprisonné dans ma panoplie d'enfants gâtés, je vais prendre le risque.
Alors Valère-Marie, retrouvons maintenant Boris Vian le temps d'une pause musicale. Il a été l'auteur de nombreuses chansons et écoutons l'un des extraits des chansons qui accompagnent votre livre puisqu'un disque est joint à cette biographie.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante La vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme.
Nous retrouvons Valère-Marie Marchand, l'auteur de la biographie de Boris Vian ou Le sourire créateur aux éditions Écriture. Nous parlions de ce goût du bizarre, de la déglingue, de la bricole, de l'exotisme, et nous parlions des rencontres, rencontres avec des êtres très singuliers là aussi, puisqu'on évoquait tout à l'heure aussi bien le jeune Yehudi Menouin que Jean Rostand et ses enfants. Et il y a aussi la guerre qui survient et qui oblige la famille Vian à quitter la région parisienne et à partir pour le sud-ouest. C'est l'exode comme de très nombreuses familles françaises. Et dans ce sud-ouest, le jeune Boris Vian va faire deux rencontres importantes. Un ami qui sera un de ses très proches amis, un type étonnant que vous allez nous présenter, et puis aussi sa première épouse.
Ah oui, alors voilà, c'est l'exode, il part, il est centralien, c'est le seul des frères Vian qui a bien réussi ses études, et il part donc à Angoulême, cité papetière très connue. Et là, il y a les vacances, donc la famille Vian débarque avec toujours des voitures anciennes, vous savez. Et ils vont passer leurs vacances à Haute-Segor, près de, entre Bayonne et Bordeaux, donc ils partent sur les routes. Et c'est vrai que là se décide la vie de Boris Vian. Il y a une jeune femme qui s'appelle Michèle L'Église, qui passe aussi ses vacances dans la région, et qui vient de perdre son jeune frère par noyade, et qui se trouve avec son autre frère dans la région. Et cette jeune femme a croisé sur la route un jeune homme surréaliste. Tout à l'heure, vous me parliez des personnages surréalistes. Premier personnage de l'univers de Boris Vian, après Jean Rostand, le Major. Le Major est un jeune homme prodigue, enfin quelqu'un qui est performant, qui est de 5 ans son cadet, et qui a pour particularité d'avoir un œil de verre. Parce qu'on dit qu'à l'âge de 10 ans, il aurait fait une tentative de suicide. Bref, il s'amusait déjà à la roulette russe très très jeune. Le Major est un personnage déchiré, déraciné, énigmatique. Il croise Michèle, qui n'est pas encore Michèle Vian, qui est une jeune femme pétillante, malgré le deuil qu'elle vient de subir, qui plaît beaucoup. Il en tombe, je ne dis pas amoureux, mais enfin, il joue un peu les chevaliers servants. Il dit « Est-ce que vous fumez ?» Ils sont sur le retour de la plage. Elle dit « Oui, oui ». Il lui allume sa cigarette et il jette son briquet en or dans la mer. Donc Michèle est interpellée par ce personnage, qui est un personnage de roman, et qui est en plus très cultivé. Le Major donc, va faire la connaissance de Boris et de ses frères. Au départ, Michèle sort avec Alain Vian.
Oui, tout ça, c'est une petite bande de jeunes gens qui se retrouvent. Tout le monde fait connaissance avec tout le monde, les affinités se font.
Voilà, ils sont tous ensemble, ils se retrouvent, ils boivent un martini. Enfin, tout ça est très gentil, ils dansent le foxtrot. Ils s'échangent, ils n'ont pas vraiment de disques, mais c'était dans des conditions très sommaires de l'époque. Et le Major est quelqu'un qui est bilingue à l'époque et qui connaît déjà, c'est lui qui va montrer aux jeunes fiancés qui vont devenir par la suite, donc Boris et Michèle vont se fiancer par la suite, et c'est lui qui leur apportera les livres de Camus et de Sartre. Quand on sait que Michèle deviendra par la suite une muse de Jean-Paul Sartre aussi, et la compagne et aussi la maîtresse de Sartre, vous voyez, c'est un... Donc le Major, je vous parlais de la Diagonale du Fou, c'est lui le fou. C'est le Joker. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à saisir, qui est profondément désespéré, qui est enfant divorcé à l'époque, qui a une sœur qui ne le comprend pas, qui est le fils d'un élu, donc son père est maire, est député, c'est un révolté.
Et il va très vite prendre un ascendant certain sur Boris.
Il prend un ascendant et en même temps, je dirais presque que c'est son frère de l'ombre. Donc il le complète. Quand Boris n'est pas là, le Major est toujours là. Le Major, c'est lui qui prendra, par exemple, Boris Vian n'a pas vraiment été père, voilà. Et pour des raisons cardiaques, il ne pouvait pas porter les enfants aussi, il faut dire aussi. Et c'est le Major qui prendra le petit Patrick par la main.
Oui, quelle image.
Hein. C'est avec le Major que Michèle écume, c'est qu'à le dire, les bouquinistes. Donc ensemble, ils vont faire les bouquinistes et ensemble, ils ramènent à Boris... les titres de Faulkner, traductions que Michel et Boris vont faire ensemble pour la NRF. Donc toute leur bibliothèque a été conçue aussi avec le major.
Une espèce de jeu à trois où la littérature, vous venez de le dire, a un rôle important, mais aussi le jazz, la musique. On est dans ces années de fin de guerre, il y a eu ce mouvement zazou, et puis d'un seul coup, avec la libération, l'arrivée des Américains, c'est cette déferlante du jazz. Et alors ça, c'est une dimension exceptionnellement forte dans la vie de Vian et de son groupe.
Oui, alors là, c'est lui un peu tout seul au départ. C'est-à-dire que très jeune, en 1927, il s'inscrit au Club de France, qui est dirigé à l'époque par Charles Delaunay, qui est le fils de Sonia Delaunay. Boris bricole ses postes à Galène. C'est un homme qui a l'oreille absolue, un jeune homme qui est branché musique. Voilà. Et c'est vrai que le major, c'est quand même l'angle plus littéraire. Le major aimait beaucoup le jazz aussi. C'est une époque où, avec Michel et après par la suite, ils vont récupérer un peu les disques de G.I. Ils vont faire tous les bals. Donc le jazz, c'est la libération. C'est ce que représente un peu l'Amérique. L'Amérique dans le sens jazzy, on swing, on est
le
libre.
Renouveau aussi après quatre ouais. années de guerre, quatre années grises. Alors vous faites un rapprochement extrêmement intéressant, c'est que Boris Vian a donc ce problème d'arythmie cardiaque depuis l'enfance. Il sait, il est hanté par ce compte à rebours, il sait que les jours lui sont comptés, il ne sait pas quand viendra le moment décisif. Et il est passionné de jazz, passionné de rythme. Il joue d'instinct, vous l'écrivez, c'est quelqu'un qui a la musique dans le sang. Et il y a ce parallèle étonnant entre quelqu'un qui a des problèmes cardiaques gravissime et cet amour du jazz et du rythme.
Le jazz, c'est son second souffle, comme le sera...
Chez quelqu'un qui n'en a pas, précisément, voilà. Et qui est trompettiste et qui
oui,
joue jusqu'à l'épuisement dans des caves.
Oui. Alors là, il y a une étude à faire qui a été faite en partie par Jean Clouzet sur Boris Vian et son corps, le rapport écriture-corps, le corps écrit. Je dirais presque qu'il réécrit ce corps défaillant à travers son écriture. Et cette écriture est dérangeante, c'est pas une écriture simple, c'est une écriture qui bouleverse, où il y a un jeu entre l'animé et l'inanimé permanent dans l'écume des jours. Dans sa poésie, c'est un peu, dans ses paroles même de chansons, c'est toujours un petit peu ça. C'est un petit peu le même rapport que Proust avait aussi avec son propre souffle. Donc cette défaillance cardiaque, ce manque de souffle, eh bien lui dont on entendait le cœur à l'autre bout de la pièce, lui qui avait peur de mourir la nuit en raison de son père, lui qui avait une grande lucidité, qui était quelqu'un de performant, diplômé, vous voyez. Il y a tout ça dans son jeu, et en même temps, il y a surtout, pour lui, l'essentiel, c'est ce souffle. Avec la caisse de résonance, et quelle est cette caisse de résonance? Ce sont les amis, le cœur, antique presque, le cœur. Vous voyez, dans les tragédies grecques, il y a le destin du héros. Le cœur annonce le destin tragique du héros. On ne va pas aller jusqu'à là, parce que Boris Vian, il y a beaucoup de joie aussi, beaucoup de gaieté. Le cœur des amis, après, par la suite, Saint-Germain-des-Prés et tout, annonce le destin trépidant de Boris Vian. Donc cette recherche, il y a comme une sorte de sursis permanent, de quête de sursis permanent chez Boris Vian.
Parce que ce personnage qui a des problèmes de cœur, et on pourrait penser des problèmes de souffle, est trompettiste. Enfin, c'est encore un paradoxe. Et comme je le disais tout à l'heure, il est dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, dès la tombée de la nuit jusqu'à l'aube, dans des caves enfumées, où on ne respire pas, où il y a un monde beaucoup trop nombreux aujourd'hui, qui ne correspond pas du tout à nos consignes de sécurité, etc. Enfin, on est dans l'excès de l'après-guerre. Et il joue jusqu'à l'épuisement.
Ah, jusqu'à l'épuisement. Vous savez, au tabou, c'est Roger Pierre qui m'a raconté, et tout le monde me l'a raconté, vous mettiez un morceau de pain au tabou, le soir même, il était moisi. Hein, Alain Vian avait conçu une chaufferette pour que les cordes du piano puissent bien résonner. Et Boris, qui était très grand, parce que l'escalier du tabou était étroit, et non seulement étroit, mais il ne fallait pas être très grand, donc obligé de courber les chines, si on peut dire, pour accéder au tabou. Et il arrive là, donc il choisit un cornet, qu'on a appelé la trompinette, qui est une toute petite trompette, enfin quelque chose de beaucoup moins important, pour épargner son souffle. Et il joue là, au-delà de ses limites. C'est sa caractéristique. Aller au-delà de ses limites. Anne-Marie Casalis dira « Le cœur de Boris Vian, c'était vraiment comme un amplificateur. » Elle décrira cette espèce de battement inquiétant que le bruit des amis, que la danse des amis réussissait à couvrir, si vous voulez. Mais qu'importe, il est là, il est bien au milieu de ses amis. Il y a une sorte de rituel de survie qui s'instaure. et Saint-Germain-des-Prés prend le relais un petit peu à son insu, parce que tout ça se passe d'une façon très naturelle.
Alors retrouvons cette ambiance jazzy et écoutons à nouveau une chanson de Boris Vian, si vous le voulez bien.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, de pied, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça. J'ai un Ilsaer, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob.
Nous retrouvons Valère-Marie Marchand qui vient nous parler de Boris Vian, disparu il y a 50 ans cette année. Alors nous évoquions l'ambiance des caves de Saint-Germain-des-Prés, cette vie trépidante qui fait penser à toute une jeunesse qui a été contenue pendant 4 années de guerre et qui d'un seul coup se déchaîne, se libère sur des rythmes jazzy. On sent cette quête effrénée chez Boris Vian, mais on sent aussi une espèce de grande solitude métaphysique, une espèce de quête qui n'est jamais assouvie, qui d'ailleurs n'est pas vraiment précisée. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas là une espèce d'impasse de l'existentialisme, comme une espèce de mirage aux alouettes philosophiques. Vous qui avez rencontré énormément de monde dans le cadre de ces entretiens pour faire cette biographie, qu'est-ce que vous en pensez, Valère-Marie ?
Eh bien, écoutez, ma première question, justement, la première personne que j'ai rencontrée, c'est un spécialiste, Michel Ribalka, qui est spécialiste de Vian et de Sartre. Et ma première question, c'est Boris Vian serait-il un personnage existentialiste ? Il m'a dit non, pas du tout, puisqu'il est plutôt, il a un rapport avec le néant complètement différent, il est plutôt aussi dans les sens, et l'écume, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, donc il y a quelque chose un petit peu totalement différent de l'existentialiste. Mais c'est vrai qu'il y a, on est tenté de dire, de voir chez Boris Vian une sorte d'incarnation de toute une époque, existentialiste. On parlait tout à l'heure des Azous. Boris Vian, si vous lisez le manuel de Saint-Germain-des-Prés, vous parlera des Bobby Soxer mâles et femelles, c'est-à-dire les successeurs des Azous. Il y a chez Boris Vian, je vous disais, bon, j'ai intitulé mon livre Le sourire créateur, parce que le sourire est quelque chose qui est en retrait, qui marque une distance. C'est pas le rire de Salvador, par exemple, son ami. Il y a aussi un paradoxe chez lui, permanent. On parle souvent de la mélancolie en littérature et je dirais qu'il y a plus surtout du désespoir.
Oui, c'est un sourire énigmatique chez Boris Vian. Ouais. Ce n'est pas un sourire franc, ce n'est pas Henri Salvador, effectivement, non. Son ami, son camarade. Enfin...
Et son dernier rôle, parce qu'il a été figurant dans ses nombreuses vies. Et son dernier rôle, c'est celui d'un professeur de sourire dans le livre, un lapsus révélateur, le film de Jean Sueux, où on le voit pâle, malade, à côté de bocaux représentant des anamorphoses du sourire de la Joconde. Et chez Boris Vian, voilà, c'est une anamorphose. L'anamorphose étant la déformation de la rétine, de la réalité. Enfin, on déforme la réalité juste un tout petit peu. Et il y a ça chez lui. Et il y a du désespoir, parce que le désespoir vous fait toucher le fond, et lui, il touche sans arrêt le fond. Il le connaît, le fond. Quand il va, par exemple, après une nuit blanche au tabou, sous les yeux étonnés de Michel, il lui dit « on va à la piscine de Ligny », et il fait sous ses yeux des longueurs en apnée, elle a peur qu'à cause de son cœur, ils ne tiennent pas la route. C'est quand même au petit matin, ils ont passé une nuit blanche.
Il a besoin d'exorciser quelque chose.
D'exorciser cette vie, d'exorciser cette hantise. Ce n'est pas la vie, c'est la perspective de la mort, d'aller au-delà. Et la Joconde, quand j'ai rencontré Juliette Gréco, elle m'a dit « mais le sourire de la Joconde à côté de celui de Boris, ce n'est rien ».
Oui, il y a un côté Prince Mnichkine, enfin, c'est un héros très dostoïevskien. Il est joueur aussi, c'est un joueur perpétuel. Il y a un côté mystificateur. Enfin, c'est un joueur qui, à force de prendre la vie à brousse-poil, y compris la vie des idées, va se brûler les doigts. Enfin, reparlez-nous de cette affaire Vernon Sullivan en 1946, la publication de J'irai cracher sur vos tons, parce que là, il va lui-même le payer très cher, ce jeu-là.
Bah, ce jeu-là, c'est très simple. En 1946, il écrit trois livres très importants. L'écume des jours, l'automne à Pékin, que j'aime beaucoup personnellement, et J'irai cracher sur vos tombes. J'irai cracher sur vos tombes, il va voir un jour un film au cinéma et comme beaucoup d'entre nous, il attend dans une file sur le trottoir, avenue des Champs-Élysées, justement, avec sa jeune fiancée de l'époque, Michel. Et ils sont là, ils attendent, etc. Et ils croisent Zozo Daluin et son frère Jean Daluin. Zozo étant un musicien et Jean Daluin un jeune éditeur. Et il dit à Boris, écoute, voilà, on m'a parlé de toi, est-ce que tu es capable de m'écrire ? Moi, il me faut un truc américain, un polar, quelque chose qui se vende très bien. Est-ce que tu es capable de m'écrire quelque chose très rapidement ? Et Boris lui répond, ne t'inquiète pas, je te ponds un truc dans les 10 jours. Effectivement, ils partent avec toute sa bande de copains à Saint-Jean-de-Monts. Le petit Patrick, le fils de Boris et Michel, tombe malade de la coqueluche, et pour veiller son fils, comme il avait veillé Michel pour des problèmes de thyroïde pour l'écume des jours, Boris va veiller son fils en écrivant « J'irai cracher sur vos tombes » qui s'appelait « J'irai danser sur vos tombes ». Et c'est Michel qui lui dit « J'irai danser sur vos tombes, mais c'est trop plat, on est dans le polar, j'irai cracher sur vos tombes ». Et ce titre va poursuivre Boris Vian à la trace. Il faut dire que quelques années plus tard, enfin très peu de temps après, en 1947 d'ailleurs, donc vous voyez, très très peu de temps après, on retrouve une femme qui s'appelle Marianne Masson, tuée, assassinée par son amant, qui s'appelait Rouget, et sur la table de nuit, il y avait un exemplaire de « J'irai cracher sur vos tombes ». Michel avait dit à Boris « Surtout n'avoue jamais ». Boris, malheureusement, va avouer.
Avouer qu'il a signé sous un pseudonyme ce roman policier.
Il va finir par avouer, à la grande surprise de ses amis, de tout le monde. Et là, effectivement, démarrent tous ses problèmes. Parce qu'alors, il avait même pensé, si vous voulez, il a un côté faussaire, prestidigitateur, Arsène Lupin, presque. Je vous parlais du père, mais il est un petit peu comme ça. Il a même conçu un faux manuscrit anglo-saxon, signé par son pseudonyme, Vernon Sullivan, inspiré en partie par l'un de ses musiciens. Enfin, il avait fait un cocktail, parce qu'il a plein de pseudonymes, Vian, hein. Il en a une cinquantaine, si ce n'est 70. Il s'appelait aussi Bison du Ravi, Hugo H. Buisson, Ornuf l'Hirondelle, Amélie de la Lambineuse, Anatole Raspail, quand il travaillait boulevard Raspail, quand il rédigeait les quatrièmes de couverture de chez Philips. Donc, si vous voulez, cette histoire de J'irai cracher sur vos tombes, ça va le poursuivre jusqu'à quelque chose de très cruel pour lui, c'est-à-dire qu'il va mieux gagner sa vie sous pseudonyme que sous son vrai nom. Jean-Jacques Pauvert va racheter l'écume des jours au prix du papier, après la mort de Boris Vian. L'écume des jours se sera très peu vendue. Et par contre, J'irai cracher sur vos tombes et toute la trilogie sous le nom de Vernon Sullivan se vendra très très bien. C'est un argent qu'il va très très vite dépenser, que ça va aller très vite. Il mourra, comme vous le savez, le 23 juin 1959, en visionnant, il ne voulait pas aller à la première de J'irai cracher sur vos tombes. Il mourra quand même dans cette salle de cinéma du Petit Marbeuf. Donc il y a quelque chose là, vous voyez, je vous parlais de Boris Vian et son double, on est en plein dedans. C'est Boris Vian et l'envers de lui-même, Boris Vian et le cinéma.
Et là, rattrapé par son double, c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sans qu'on sache qui va l'emporter et qui gouverne quoi.
Et aussi, Boris Vian et sa légende. Voilà, dans mon introduction, je fais une sorte de lettre à Boris Vian, et en parlant de cette fiction qui est une vie d'écrivain. Et on a presque l'impression, quand vous partez, je dis ça de Boris Vian, mais on pourrait dire ça de plein d'autres écrivains, que le roman de Boris Vian, c'est aussi sa vie. Il crée sa vie à chaque instant. Sans le savoir, peut-être, ou en le sachant, on ne sait pas trop. Mais c'est très troublant. C'est très très troublant de savoir finalement le prince de Saint-Germain-des-Prés, le Boris Vian brillantissime, a été victime de son talent. Il avait au départ la voix royale. Tout le monde lui prédisait un avenir Jeune Poulain de chez Gallimard, quelqu'un qui était promis à tous les prix littéraires, et qui va, malgré lui, ou peut-être parce que c'était sa façon d'être, décevoir tous les espoirs. Celui de Michel, qui sera très déçu par... qui se tournera vers Sartre, qui incarnera...
Oui, le mariage ne tiendra pas, en fait.
Voilà, il ne tiendra pas. Les espoirs de tout le monde sont déçus. Boris Vian n'est jamais là où on l'attend, et il abandonne la littérature pour écrire des chansons, à partir de 1954. Et là, il passe pour un rigolo, quelqu'un qui tient pas la... Enfin, qui ne tient pas la route, lui qui était très bon conducteur, qui ne tient pas la route. Mais Michel, que j'ai eu, avec qui j'ai eu la chance d'avoir un dialogue assez approfondi, m'a dit que c'était aussi sa façon d'être, c'est-à-dire c'est quelqu'un, effectivement, quand vous avez un chronomètre à la place du cœur, comment voulez-vous faire? Peut-être avait-il choisi de vivre plusieurs vies.
Alors Valère-Marie, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a que des sujets très graves abordés dans cette biographie. Il y a des choses beaucoup plus légères. Heureusement, c'est une vie très ramassée, donc tout se vit et tout s'enchaîne. Il y a des tas de rencontres. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont connu Vian et qui sont aujourd'hui disparus. On pense à Queneau, on pense à Sartre, on pense à Camus. Et puis, il y a encore des survivants et des gens qui se portent fort bien. On pense à Gricou, mais on pense aussi à quelqu'un qu'on retrouve avec beaucoup de surprises et qui est Nadine de Rothschild. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel titre intervient Nadine de Rothschild dans votre biographie?
Elle intervient en tant que mannequin. Elle était actrice et mannequin à l'époque. Elle avait 17 ans à Saint-Tropez.
Une débutante.
Débutante, et elle fait un défilé de mannequins. Et Boris Vian, qui aime beaucoup les femmes, la repère et voilà, va poursuivre Nadine de Rothschild
dans
ses assiduités. Et il va avoir une idylle à Saint-Tropez. Il est sur le point de se séparer de Michel. Hein. Il est dans une situation familiale pas très claire. Et Nadine de Rothschild, c'est un peu la tisane de Boris Vian, qui est un homme très stressé. Elle le distrait, elle le repose, elle le détend.
Et elle ne lui cède pas, finalement.
Elle lui cède, si. Elle lui cède, mais pas totalement. Enfin, bon, c'est une idylle. Et il se retrouve à Paris et il est très romantique avec elle. Et Nadine de Rothschild m'a raconté que donc Boris Vian lui avait adressé beaucoup de lettres et qu'un jour, elle avait mis ses lettres dans une boîte et dans cette boîte était à côté d'un mobile de Calder. Et qu'un jour, malheureusement, elle a été cambriolée. Et donc, les lettres d'amour de Boris Vian sont parties avec le mobile de Calder. Ce qui nous dit bien l'esprit mobile et ludique de Boris Vian. Elle a gardé un souvenir ému de cette... et très lucide aussi, parce qu'elle savait que Boris Vian n'était pas un homme pour elle. Donc, tous les deux très lucides. Donc, ils retrouvent... Les femmes le mettent au monde, ses rencontres le mettent au monde. Et à chaque fois, c'est pas une nouvelle jeunesse, mais c'est une nouvelle étape dans sa vie.
Eh bien, Valère-Marie Marchand, je vous remercie d'être venue nous parler de Boris Vian, de nous présenter ce météore. Parler de Boris Vian, c'est un peu délicat parce que tous les événements, encore une fois, sont très condensés, très ramassés. Mais je trouve qu'il est extrêmement emblématique d'une génération. Vous le montrez très bien parce que dans cet après-guerre, on pense aussi à d'autres héros. On pense à Sagan, on pense à James Dean. Et on se demande ce que serait devenu un vieux Boris Vian comme Chateaubriand était devenu à la fin de sa vie un vieux René. Et comment serait né à ce moment-là, comment se serait tissé sans doute très différemment la légende dorée de Vernon Sullivan.
Vous savez, un personnage préféré de Boris Vian, c'est Adolphe de Benjamin Constant. Donc je pense que ça vous en dit long sur la fin, la vieillesse présumée de Boris Vian, et c'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que votre livre Boris Vian ou Le sourire créateur, cette biographie, est sortie aux éditions Écriture. Valère-Marie Marchand, merci beaucoup.
Merci à vous.